Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Ravive, dans l'émission Storytelling, présentée par Byron et Sarabella. Salut Byron.
Salut Sarabella, salut à tous.
Storytelling, c'est l'émission qui raconte des histoires authentiques.
Des anecdotes véridiques.
Du vécu, des tranches de vie.
De l'insoupçonné à l'insoupçonnable.
De la story et du feeling,
c'est Storytelling.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste Coolio. Et bien évidemment, tu nous as choisi quel morceau, Byron ?
Eh bien, il n'y a pas de surprise, j'ai choisi Gangsta's Paradise, le tube de Coolio, maintenant sur Radio Ravive. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Ça rappelle de bons souvenirs de soirée, ça, Byron. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui ?
Bon, déjà, on parle d'un artiste américain, évidemment, qui a cartonné dans les années 90.
Gangsta's Paradise, c'est un classique, comme on dit dans le hip-hop. Je pense que c'est un classique du hip-hop, certes, mais c'est même, ça a dépassé les frontières du hip-hop américain, du style, on va dire, puisqu'il y a tout le monde qui connaît ce morceau. Alors, tout le monde connaît ce morceau pour deux raisons essentielles. La première raison, on va en parler, c'est qu'il contient le sample d'un morceau de Stevie Wonder qui s'appelle Pastime Paradise. Et en fait, voilà, cette espèce de violon, en fait, lancinant, qui revient comme ça. Donc ça, c'est la première chose qui a fait qu'on a retenu ce morceau très vite. Et la deuxième, c'est que, ben voilà, c'était un morceau sur une bande originale de film, un film avec Michelle Pfeiffer. Le film s'appelait Esprit Rebelle. Et voilà, donc c'était une des premières fois, d'ailleurs, une des premières collaborations entre la musique et le cinéma. Et donc, évidemment, hein, on dit souvent que la musique, c'est quelque chose de très costaud et très fort, mais le cinéma, c'est encore plus puissant. C'est une industrie beaucoup plus puissante. Donc forcément, quand on s'acoquine aux deux, ben voilà, c'est fort. C'est un artiste qui a fait... On connaît pas d'autres chansons, enfin, on va dire le grand public ne connaît pas d'autres chansons de l'artiste Coolio. Il a promené finalement cette chanson pendant des années et des années avec lui. Il y a des artistes comme ça qui font ce qu'on appelle un sorte de one shot. Ok, alors on connaît très bien ça, évidemment, on en parle souvent. Hein, Patrick Hernandez, Born to be Alive, dans le disco. Mais là, voilà, c'est exactement la même chose en fait avec Coolio. Il est affilié à ce morceau, c'est son morceau, et on entend parler que de lui en rapport avec ce morceau. Alors, il avait aussi une grosse particularité, Coolio, c'est qu'il avait une coupe de cheveux qui était totalement improbable, avec des espèces de locks, coupe afro-américaine, et c'était super, super étrange, effectivement, de le voir.
Oui, c'est ce que j'ai pu voir en revoyant des photos de lui.
Voilà,
c'est...
exactement. C'était vraiment cette. Il avait un style. Ça collait très bien. Sa voix un petit peu rock comme ça, effectivement aussi, qui rappe des morceaux. Il y a un rappeur comme ça qui a un peu la même voix. Ça, c'est uniquement peut-être les connaisseurs du rap américain. C'est un artiste qui s'appelle Ja Rule, qui a une voix aussi un peu grave comme ça. C'est un peu pareil, en fait. Il a cette manière de rapper un petit peu. Voilà. C'est dans les années 90, il y avait beaucoup de styles très marqués comme ça. Et Coolio avait vraiment son style très, très marqué.
Et ça serait complètement fou si tu nous dis que tu as une anecdote avec lui.
Pour raconter l'anecdote avec Coolio, parce que j'ai eu la chance effectivement de le rencontrer dans une circonstance particulière, ce que je peux expliquer en fait, c'est qu'on est dans les années 2000. Et dans ces années 2000, dans ma carrière à moi, je vais parler un petit peu de moi aussi, dans ma carrière à moi, je suis en fait, entre deux feux. Ça veut dire qu'en réalité, on sent bien que le rap est en train de prendre une ampleur énorme. Et elle continue de prendre une ampleur énorme à ce moment-là. On est dans les années 2000, donc il s'est passé beaucoup de choses déjà. Hein. Ça veut dire que les années 90, notamment l'année 93 par exemple, est une très grande année pour le rap, et notamment le rap français. Donc ça veut dire que ça va se développer énormément. Arrivé aux années 2000, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a quelque chose en fait qui n'a pas dépassé encore les frontières du hip-hop, c'est qu'en fait on n'est pas allé sur certains formats et sur certains endroits. Je m'explique.
Oui, c'est-à-dire, Bayron.
Voilà, je m'explique. Je me retrouve dans une fête de famille. J'ai un cousin, en fait, qui est là et qui vient me voir et qui me dit « Alors, qu'est-ce que tu fais ?» Ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu, comme ça arrive dans les grandes familles. Et là, je commence un petit peu à lui expliquer que bon, je fais du rap, tout ça, que voilà, ça me plaît beaucoup, que je fais des concerts. Bon, voilà. Et on sent bien, en fait, que c'est une niche à ce moment-là. Ça veut dire que les concerts de rap, c'est une niche. Ça veut dire que c'est vraiment pour un public particulier, dans des lieux particuliers.
Surtout à cette époque.
Surtout à cette époque. On est vraiment dans cette époque-là où, en fait, c'est très clivant. Le rap, en fait, n'a pas encore dépassé, on va dire, les frontières du grand public, entre guillemets. Le public rap est un public rap. Les lieux rap sont des lieux rap, et ainsi de suite. Et là, en fait, on discute ensemble et il me dit, écoute, tu sais, moi, je te conseille d'aller dans les boîtes de nuit, mais pas à Marseille évidemment, d'aller dans les boîtes de nuit côté la côte, French Riviera quoi, Cannes, Saint-Tropez, Monaco, Nice, tout ça. Il me dit parce qu'en fait là-bas, c'est énormément fréquenté évidemment par des touristes, donc en fait il y a un côté très cosmopolite dans la manière de diffuser de la musique. Donc il y a un public pour en fait ce genre de choses-là. Et il me dit, tu sais, dans ces boîtes de nuit-là, ils diffusent du hip-hop. Là j'ai un choc. Pourquoi j'ai un choc ? Parce que, pour être très clair encore une fois, moi je ne vais pas en boîte de nuit à cette époque-là, pas du tout. Non seulement je n'y vais pas, mais surtout on ne me laisse jamais rentrer.
C'est surtout ça.
C'est exactement ça. Ça veut dire que j'ai un vrai souci à l'époque, c'est que je ne peux rentrer nulle part. De toute façon, quand j'y vais et que je rentre à l'intérieur, De toute façon, je m'ennuie énormément. Pourquoi ? Parce que le style de musique de l'époque qui est diffusé dans les boîtes de nuit, c'est ce qu'on appelle la techno. Donc ça veut dire que je ne suis pas du tout techno, moi, à ce moment-là.
Pas que, Byron, il n'y avait pas que de la techno.
Il y avait vraiment, essentiellement, de la musique vraiment électronique et technologique, entre guillemets. On est vraiment là-dessus, sur vraiment cette époque-là où on n'a pas encore intégré autre chose. Du moins, je répète, à Marseille. Et là, me dit, je te conseille de venir passer peut-être deux petits jours avec moi, on va à Cannes, et là je te montre les boîtes de nuit de Cannes, et je suis persuadé que là-bas il y a quelque chose à faire, parce que là-bas ils diffusent du hip-hop en boîte de nuit.
J'en ai aucun doute, vu la nuit là-bas, les soirées qui se passent à Cannes.
Ben, moi je ne connaissais pas du tout les nuits cannoises, donc me voilà parti. Le seul souci que j'ai à ce moment-là, c'est que je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir entrer dans les boîtes de nuit. Je ne rentrais pas déjà dans les boîtes de nuit à Marseille, alors imagine-toi.
C'est Cannes. Vrai.
Je me suis dit, c'est foutu. Il me dit, non, tu sais ce que tu fais, prends ton plus beau costume. J'ai pris le costume de la bar mitzvah. Non, quand même pas, mais j'ai pris, prends ton plus beau costume. Et allons à Cannes. Et en fait, nous voilà partis comme ça, mais deux jours après, quoi. Vraiment, ça a été très dynamique.
Alors, c'était le cas, tu as pris ton beau costume.
Non, il m'allait plus, heureusement. J'ai mis un costume blanc, on aurait dit le prince de New York dans la rue de Cannes. Je suis arrivé vraiment en costard blanc. J'étais bronzé en plus. Donc, je passais pour un Saoudien, en fait. C'est ça qui était extraordinaire. Je suis arrivé là-bas, en fait, sur place. Ils ont dû se dire, lui, à mon avis,
ils ont dû te prendre pour un prince.
Il a dû garer la Rolls Royce Phantom pas loin. Et j'arrive, en fait, dans la première boîte de nuit, c'était vraiment le test pour savoir si j'allais rentrer ou si j'allais passer.
Et alors,
qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je rentre, mais alors tellement facilement, avec un bonsoir monsieur, tout se passe bien, ici et ça, machin, génial. Je crois que même qu'ils m'ont parlé en anglais. Donc voilà, je me retrouve dans cette boîte de nuit. C'est une boîte de nuit qui, en fait, c'est pas une vraie boîte de nuit. C'est ce qu'on appelle un before. C'est au-dessus, en fait, d'un restaurant. Dans le carré d'or à Cannes, comme on appelle le carré d'or, et en fait ça s'appelle le loft, et je suis là-bas, et là je me retrouve dans cet établissement, donc de nuit effectivement, donc je suis content d'être rentré, c'est cool, je me retrouve au bar avec mon cousin, on est en train de siroter quelque chose, et puis la musique c'est pas ça du tout, c'est de la techno, clairement c'est de la techno qui est en train d'être diffusée. Donc moi je commence à faire des grimaces à mon cousin en lui disant tu m'as menti, on va partir, et là il me dit essaie d'être patient, et au moment en fait où je décide de partir, et là d'un coup bam, du rap américain, donc on a les premiers titres en fait de Fat Man Scoop, tous ces trucs là, les Mary J. Blige, j'ai essayé ça qui cartonne en fait, et là je vois le public notamment réagir, et je vois la différence en fait entre la techno qui était diffusée finalement pour boire, puisqu'à ce moment là les gens ils dansent pas sur la techno en fait, ils sont tous en train de consommer de l'alcool sur la techno, là d'un coup à partir de ce moment là où d'un coup la musique hip-hop rentre en jeu, là on voit les gens, les bras en l'air, expressifs, le sourire, ils montent sur les tables, ils montent sur les chaises, il y a un vrai truc qui est en train de se passer à ce moment là, et quand je vois ça je me dis effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire. Cette nuit-là va être décisive en réalité, parce qu'on va faire le loft, mais pas que. On va rentrer dans toutes les boîtes de nuit. Ben, fallait rentabiliser le costume. Donc, on va dans toutes les boîtes de nuit de Cannes. On sort d'une boîte de nuit, on rentre dans une autre, et ainsi de suite. Donc, je me retrouve dans tous les établissements et je vis la même expérience dans tous les établissements. Ils diffusent du rap américain, donc pas du rap français évidemment. Ils diffusent que du rap américain, et le rap américain a un côté extrêmement classieux, à la fois classieux, il y a beaucoup d'énergie, et on voit surtout le public réagir par rapport à ça. On voit vraiment en fait les États-Unis, le lien avec les États-Unis s'établir à ce moment-là. Là en fait, en sortant de là, j'ai une réflexion, en train de remonter tranquillement dans notre petit appartement qu'on nous avait prêté pour l'occasion, et en fait je suis en train de réfléchir et de dire ok, très bien, mais c'est ça qu'il faut investir en fait comme lieu, il faut aller dans les boîtes de nuit maintenant, mais pas évidemment à Marseille, il faut peut-être aller à Cannes, essayer de proposer finalement du live, puisque à l'époque, je dis bien à l'époque, aucun Français ne faisait du live en boîte de nuit.
Et surtout, tu as eu deux bonnes nouvelles. C'est que tu es rentré dans la première et dans toutes les autres la même soirée.
C'est bien ce que je suis en train de dire. C'est que pour moi, c'était complètement nouveau. Donc, j'abordais en fait un nouveau format, entre guillemets, et surtout un nouvel espace d'expression. Et pour les artistes, comme on le sait, c'est super important.
Donc, quelle a été la suite ?
Ben justement, vous allez me dire, mais quel est le rapport finalement avec notre ami Coolio ? Et ben justement, qu'est-ce qui se passe peu de temps après, j'en parle à tout le monde. On retourne à Cannes, en fait, et je parle à tout le monde. Ça veut dire que je croisais des gens dans la rue. Ça veut dire ça allait du serveur au voiturier, en passant par physionomiste, en passant par le DJ, en passant... Évidemment, je ne connaissais pas les patrons, donc je parlais à tout le monde. Et j'ai fait courir le bruit à tout le monde que je faisais du live en français dans les boîtes de nuit. Et que je l'avais déjà fait. C'est ce qu'on appelle le bluff. Hein. Que je l'avais déjà fait, que ça marchait et que ça allait très bien. Et en fait, en réalité, bon, pendant un moment, en fait, les gens me regardent un peu bizarrement. Puis au fur et à mesure, en fait, ça parle, ça parle, ça parle. Et là, un jour, vous savez comment ça se passe. Et là, il faut le raconter, cette histoire-là. Il y a une personne, en fait, à qui je parle, qui a un magasin de téléphonie. Il rentre chez lui le soir, il parle à sa femme. Sa femme dit « Ah, c'est cool, c'est sympa, ici et ça ». Elle le met dans un coin de sa tête, elle se retrouve invitée à un anniversaire et à côté d'elle, à cet anniversaire, il y a le patron d'un des plus grandes boîtes de nuit. Enfin, c'était un regroupement de boîtes de nuit. Il avait 4 boîtes de nuit, en fait, sur Cannes. Un certain Patrice, pour ne pas le nommer. Et en fait, il se retrouve à côté de Patrice en disant « Ben, tu sais, moi, je connais quelqu'un », alors qu'elle ne me connaît pas. Hein. À plusieurs degrés, ça se passe. Elle dit « Je connais quelqu'un qui fait du live dans les boîtes de nuit, qui rappe dans les boîtes de nuit. » Et là, waouh, génial, ça peut m'intéresser. File-lui ma carte. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Comme quoi, il faut toujours parler, toujours,
complètement.
Toujours en parler, parce qu'on ne sait jamais, en fait, sur qui on tombe. On ne sait jamais.
C'est
et
vrai.
Là, comment ça se passe? Eh bien, cette personne-là, en fait, finalement, m'appelle. Je la rencontre. On se voit à Cannes très rapidement. Et elle me dit « T'inquiète pas, je pense à toi. J'essaierai de te mettre dans un de mes établissements et de te programmer. » Là, ok, je pars. Je ne sais pas bien ce que ça vaut, hein, je ne le connais pas.
C'est toujours mieux que rien.
Exactement. Il a un établissement à l'époque qui s'appelle le Love. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 2000, le Love, c'est en dessous le Nouga Hilton. Maintenant, où il y a le casino, okay. En fait, en réalité. Et en fait, le Love, il faut savoir qu'en 2000, l'entrée est à 20 euros. Okay. Donc, c'est l'entrée à 20 euros et le samedi soir notamment et les week-ends même le vendredi-samedi, c'est ouvert d'ailleurs que le week-end, c'est environ 2000 personnes à l'intérieur et
ah oui,
300 personnes à l'extérieur qui veulent rentrer.
Okay.
Donc, on parle d'un établissement, encore une fois, c'est payant. Donc, ça veut dire que c'est une machine de guerre. Ça fait du chiffre, ça marche très fort et en fait, il se passe un truc et là, je crois qu'il faut encore une fois raconter cette histoire-là. Je suis à Marseille, dans ma voiture. Et là, en fait, j'ai mon cousin, mon fameux cousin, en fait, qui m'appelle, qui me dit qu'il faisait un peu l'entremetteur, entre guillemets, qui faisait un petit peu mon agent, officieux ou officiel. Et en fait, il me dit, écoute, je t'appelle parce que, en fait, on a une proposition de la part de Patrice, donc pour le Love, et qui aimerait bien te programmer pendant le Midem. Voilà, le Midem, c'est le marché international de la musique. Hein. C'est
plus.
Là où, en fait, tous les artistes, tous les producteurs, tous les auteurs, les compositeurs, les éditeurs se rejoignent pour venir, en fait, acheter et vendre. Hein. C'est un marché. Donc, moi, je ne connaissais pas le Midem à ce moment-là, mais on sait que c'est foisonnant. Toutes les soirées sont hyper plébiscitées, évidemment. C'est un petit peu le festival de Cannes, en fait, mais de la musique. Et c'est à Cannes en plus.
Oui, d'ailleurs, à ce moment-là, les Energy Music Awards étaient en même temps
exactement.
Que le Midem, alors que maintenant,
c'est
plus la même date.
Exactement. Et apparemment, il y a eu une dissension entre
Louis c'est dommage, Midem. Parce que ça donnait beaucoup d'entrain.
Effectivement. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je dis, bon, mais ok, très bien. Je dis à mon cousin, écoute, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Il n'y a pas de problème pour jouer au Love. C'est quand même 2000 personnes. C'est the place to be. C'est l'établissement extraordinaire. Et en fait, à ce moment-là, je dis, ok, très bien. Mais c'est quoi le thème de la soirée? Et là, il me dit, écoute, c'est une soirée rap, hein, évidemment. Tu l'imagines bien. Et en fait, c'est une soirée avec Joe Star et son label BOSS. Et là, moi, ça me fait quelque chose quand même.
Bah
parce
oui, parce
que
tu les apprécies déjà.
Exactement. Je suis évidemment fan de la première heure d'NTM, de IAM, d'Assassin, d'MC Solar. Donc, ça veut dire que, évidemment que pour moi, c'est, voilà, c'est une chance inouïe en fait, de pouvoir me retrouver dans une soirée où il y a Joe Star. Et en plus, c'est sa soirée. Bon, je suis super heureux. Tout va bien. Et là, en fait, deux jours passent. Et il me rappelle. Et là, il me dit, il y a un souci.
Ah.
C'est qu'en fait, le thème de la soirée a changé. Donc, il n'y a plus de Joe Star. Et là, vous savez comment ça se passe dans ces moments-là quand vous êtes artiste en devenir, entre guillemets, et que vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore de notoriété, vous vous dites, bon, mais ok, très bien, j'ai compris, je vais être celui, en fait, qui ne va pas participer à la soirée, en fait, en réalité.
Mais
ça
oui.
Y est, en fait, le plan tombe à l'eau. Et en fait, il me dit, non, pour ça, non, la soirée, tu vas toujours la faire. En tout cas, ils veulent toujours te programmer. Par contre, le thème de la soirée a changé. Et là, par contre, j'arrive pas à lire. En fait, c'est une soirée avec un certain... Et là, c'est trop drôle, je vous jure, il faut l'entendre. Un certain Jay-Z.
Oh.
Donc, il y a Jay-Z. Et en fait, ils doivent demander au manager de Jay-Z savoir si, ils sont OK pour qu'un artiste français vienne se programmer.
Carrément.
Et là, heureusement que je suis assis à ce moment-là, parce que Jay-Z, c'est certainement à ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, est certainement un des plus gros artistes du hip-hop international. Aujourd'hui, il a dépassé même les frontières, vraiment, du hip-hop. Évidemment, c'est une immense fortune. C'est quelqu'un qui a réussi. Il y a une phrase de Jay-Z qui dit « I'm not a businessman, I'm businessman ». Donc, c'est exactement ça. C'est vraiment le business, quoi, vraiment en action. C'est vraiment une réussite.
C'est sûr qu'il a prouvé de sa réussite.
C'est une réussite énorme, Jay-Z. Et en fait, c'était tout simplement et bonnement la soirée de son label, la Rocafella Def Jam Party.
Donc une soirée beaucoup plus importante.
Énormément importante. Donc en fait, je passais d'un statut français finalement avec Joestar et BOSS à un statut totalement international. Il va se passer pas mal de choses évidemment. Donc je retourne à Cannes pour aller voir de mes propres yeux le flyer, parce qu'il faut quand même se dire qu'on n'y croit pas quand ça arrive, ce genre de choses-là. Et là, je me retrouve en fait devant le flyer, à regarder le flyer, et je revois cette image extraordinaire, Jay-Z avec une barre et marqué Byron. Il ne voulait pas marquer Marseille. C'était drôle d'ailleurs, personne ne voulait marquer Marseille. Ils m'ont dit non. Et en fait, bon, il va y avoir 1 milliard de péripéties, je ne sais plus si je fais la soirée, si j'arrive à la faire, c'est extrêmement compliqué tout ce qui se passe au milieu de tout ça. Vous imaginez bien le plus gros label de musique hip-hop du monde qui fait sa soirée à Cannes pendant le Midem. Ben voilà, en fait, à tout moment, je me suis dit, ils vont me déprogrammer, quoi, donc c'est sûr et certain. Et en fait, non, on arrive jusqu'au bout de cette soirée. La petite anecdote que je pourrais raconter à l'intérieur de cette anecdote, c'est que, ben, par exemple, je dis à Patrice, ok, mais j'aimerais bien voir la boîte, parce que moi, je n'y suis jamais rentré dans cette boîte de nuit. Voilà. Donc, j'ai dit, et puis je ne rentrais pas de toute façon dans les boîtes de nuit. Donc, voilà. Et
écoutez, oui, mais à Cannes, oui.
Eh ben, où j'étais rentré, effectivement. Là, je me retrouve en fait à... Qu'est-ce qui se passe ? Je me retrouve finalement, la soirée est programmée le lundi soir. Je pense que c'était un 21 janvier 2000. Je crois que c'est ça, hein, de mémoire. Et en fait, je me retrouve samedi soir en me disant, tiens, je vais rentrer quand même dans la boîte de nuit pour aller voir cette boîte de nuit de près, là où je vais jouer le lundi. Et en fait, j'arrive samedi soir. Malheureusement, il y a énormément de monde. Évidemment, je demande si je peux rentrer. Et là, vous savez comment ça se passe dans les boîtes de nuit. Le physio dit, écoutez, si vous connaissez la personne qui peut vous faire rentrer, vous l'appelez. Personne répond au téléphone, ainsi de suite, et ci et ça. Donc finalement, je suis recalé, on va dire, à l'entrée d'une boîte de nuit où je vais me retrouver le lundi. Et en fait, le lundi arrive, Patrice s'excuse évidemment en me disant « Bon, ben, je suis désolé que tu n'aies pas pu rentrer dans la boîte le samedi, mais ce n'est pas grave, qu'à cela ne tienne, puisque évidemment, tu es programmé lundi soir et tu as une table avec le nombre de personnes que tu veux, on t'offre à boire et si et ça. » Donc de ce côté-là, je suis évidemment invité.
Voilà. Il avait bien rattrapé le coup.
Il avait bien rattrapé le coup, effectivement. Et donc, je me retrouve dans cet établissement l'après-midi pour faire le soundcheck, en fait, les balances, comme on dit, le réglage de son. Et en fait, la personne qui gérait un petit peu la salle, qui était un peu la régisseuse, Célia, elle doit partir. Et en fait, elle me dit, écoutez, si vous voulez finir, pas de problème. Dans ce cas-là, je vous laisse les clés. Et là, quand on me donne les clés dans la main, j'ai dit, c'est complètement fou cette histoire. En fait, j'ai été recalé d'un établissement samedi soir et le lundi, j'ai les clés de cet établissement dans la main.
C'est complètement fou.
C'était
oui,
complètement
effet.
Fou. Et en fait, c'est un petit peu, encore une fois, toujours à l'image vraiment de ce qui se passe dans l'artistique. Les choses se passent tellement, tellement rapidement. Je ne peux pas décrire cette soirée comme étant un rêve éveillé. Ça veut dire qu'effectivement, on se retrouve, effectivement, donc on est nombreux à table, je peux inviter qui je veux, voilà, on est en équipe. Moi, je vais performer en fait mes chansons à moi ce soir-là. Et comme je sais que je vais chanter mes chansons à moi, je sais que je vais chanter en français. Et donc, je sonde un petit peu le public qui est là. Ça parle allemand, ça parle brésilien, ça parle évidemment anglais. Voilà, il y a des rappeurs américains partout. Alors, connus ou moins connus, j'arrive pas trop à voir qui est là, qui n'est pas là. Bon, bref. Et en fait, je suis concentré en fait sur mon live, sur ma prestation à moi. Je me dis, faut surtout pas la rater. Donc, je me dis vraiment à ce moment-là, vraiment ne pas la rater. Et je monte sur la cabine qui fait office de scène, en fait, et je performe. Et à un moment donné, je sens qu'il y a un mouvement de foule en bas et je ne vois pas bien ce qui se passe. Mais je sens qu'il y a quelqu'un d'important, en fait, en réalité. Mais moi, je suis tellement pris dans mon live qu'en fait, je ne calcule pas grand-chose. Les 2000 personnes crient mon nom. C'est extraordinaire. Ça veut dire que vraiment, les 2000 personnes réagissent, sont réceptifs. Il y a quelque chose qui se passe, vraiment. Il y a une magie pendant le live qui se passe.
Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'était magique.
C'était complètement magique à ce moment-là. Et en fait, en descendant, et donc en descendant de la scène, c'est là que je me retrouve nez à nez, en fait, avec l'artiste Coolio, qui était là. En fait, Coolio était dans le carré VIP. Et en fait, il était en train de regarder en fait le live. Je pense que ça lui a pas suffi parce que en fait, et je veux en venir là. Ces artistes-là des années 90, ce sont des artistes totalement passionnés en fait, finalement, par leur musique. Et on sent que ça a été passionné aussi par la jeune génération. Ça veut dire qu'en fait, comme Coolio vient des années 90 et il a suivi, il a eu le temps de suivre en fait tous les artistes qui sont arrivés derrière. Ce sont des vrais passionnés. Ce sont des vrais passionnés et ce sont des gens qui ont contribuer encore une fois à faire que la musique hip-hop s'est développée à l'international. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait que faire de la musique. Ils ont aussi été producteurs souvent. Ils ont souvent sorti des jeunes. Ils ont souvent produit effectivement de la jeune génération. Et là, je me suis retrouvé nez à nez avec cet artiste. Je ne suis rien à cette époque-là. Vraiment rien du tout.
Pas pour lui en tout cas.
Mais exactement, c'est ça en fait. C'est ce qui s'est passé. Pas pour lui parce qu'en fait, il m'a regardé comme un artiste en fait. Moi, j'étais sur scène, pas lui, par exemple, ce soir-là. Et là, c'était drôle, en fait, de voir à ce moment-là beaucoup d'admiration et de respect.
C'est ça, c'est tout à son honneur d'être venu vers toi.
Complètement. Et de surtout, en plus, donner sa voix. Parce qu'à un moment donné, je faisais répéter le public mon nom, je demandais au public de participer. Et en fait, je l'entendais, il était là, et puis il bougeait, ici et ça. Et c'était extraordinaire de voir ça. Et ça m'a encore une fois conforté dans l'idée que les rappeurs américains, et on en a déjà parlé dans cette émission, ont vraiment cette faculté d'être à la fois des grands artistes, mais aussi des grands hommes.
Complètement, Byron. En tout cas, franchement, bravo à Coolio d'avoir eu cette humilité de t'avoir respecté en tant qu'artiste. Et vraiment, ça prouve bien qu'il était un grand artiste et un grand homme. Byron, c'était toujours aussi intéressant. J'ai adoré toutes ces histoires que tu nous as racontées. Et en plus de parler de Coolio et de la ville de Cannes que j'apprécie particulièrement. Merci beaucoup, à très bientôt et merci Byron.
Merci Sarabella et à très bientôt pour de nouvelles anecdotes croustillantes sur Storytelling.
Au Ravive, retrouvez-nous 24h sur 24, 7 jours sur 7.